André Engel, nous sommes ici à la Comédie Française. Vous créez pour la première fois un spectacle dans cette maison, dans la salle Richelieu, et tout d'un coup, on a l'impression que, avec Papa doit manger de Marie-Anne Diaye, on a le sentiment que la maison renoue avec le temps présent. On a vraiment le sentiment d'un événement presque politique. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, elle le fait d'ailleurs pour plusieurs raisons. Enfin, je vois déjà trois raisons. Ça aurait fait bientôt 20 ans qu'un auteur contemporain français n'avait pas été joué dans la salle Richelieu. Ils en jouent. Je veux dire, la Comédie Française est de son temps, mais dans des salles qui sont plutôt annexes et pas dans la salle Richelieu, pour des raisons d'ailleurs que j'ignore, enfin qui tiennent à la manière dont la Comédie Française souhaite fonctionner. Et là, effectivement, ils ont accepté un auteur contemporain français vivant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cet auteur est une jeune femme. Jeune et femme. La troisième chose, c'est qu'elle aborde, à travers Papa doit manger, un sujet, enfin plusieurs sujets, dont certains sont directement d'ordre politique, hein, socio-économique, moral aussi. Et la quatrième raison, c'est que le personnage principal étant un noir, bon, d'une part, ça a amené la Comédie Française à engager un acteur noir pour la première fois comme pensionnaire, et le problème racial est évidemment posé avec toute l'évidence qu'il doit avoir à travers ce texte. Donc voilà les raisons pour les...
C'est toute la complexité.
La complexité, oui.
C'est-à-dire qu'elle prend complètement à revers tout le politiquement correct, tout...
Oui, c'est ça. Mais c'est ça qui...
Expliquer un peu la pièce... Enfin, expliquer... Parce que ce personnage est assez complexe, non ?
C'est un personnage qui n'est, comme Marie l'a dit ou a pu le dire, ni fait ni à faire. C'est-à-dire, effectivement, il a des défauts, il les assume, il va jusqu'au bout de ce qu'il croit pouvoir être dans la société dans laquelle il vit. Donc c'est une sorte d'escroc comme ça, enfin, escroc, sentiment, escroc.
Et, c'est un acteur, non ?
C'est un acteur, oui, c'est un acteur. Mais c'est quelqu'un qui se défend par le peu qu'il a à sa disposition, c'est-à-dire au fond son charme. Je crois que si Papa n'avait pas de charme, Papa n'existerait pas. C'est-à-dire qu'il s'autorise, il fait passer un certain nombre de choses, il s'autorise un certain nombre de choses parce qu'il est absolument séduisant. Et que c'est ça le secret de Papa. C'est qu'il arrive malgré tout, et il fait des choses assez invraisemblables, à séduire. Et sans, je m'empresse de le dire d'ailleurs, parce que sans un comédien qui soit capable à la fois de comprendre ça et d'être ça, je crois qu'on n'aurait pas bien pu faire ressortir, on aurait peut-être bien pu monter Papa doit manger, mais en tout cas pas faire ressortir l'aspect essentiel, je crois, du personnage et donc de la pièce. Mais Marie, au fond, est sans concession avec tout le monde. Je veux dire, c'est pas parce que Papa est un noir qu'il n'a pas de défauts. Les défauts de Papa sont mis en avant. À la fois, on comprend très bien qu'il n'a que ça. Je veux dire, il est démuni, son charme, je veux dire, son bagou, son mensonge, son sens du théâtre pour essayer de s'en sortir. Et par ailleurs, il ne cherche pas, lorsqu'il prétend dire la vérité sur ses capacités qu'il a précisément à être un papa, à ne pas nous en faire à croire. Enfin, je veux dire, il supporte pas les enfants, il aime pas ses filles, il le dit, il aime encore moins le petit garçon qu'il a fait avec une autre femme. C'est quelqu'un. Enfin, il n'y a pas que le sujet de la race qui est abordé par le texte de Marie Diaye, et c'est ça qui en fait sa richesse. À parité, je trouve que le thème de la paternité, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'être un père, que pouvoir, ou que vouloir, ou même ne pas vouloir être un père, le problème de la pauvreté, de la démunition, qu'est-ce que c'est que ne rien avoir, enfin être absolument sans ressources et confronté quotidiennement à l'humiliation, à la souffrance, à la misère, qu'est-ce que c'est que la différence, bon ça c'est le thème racial si vous voulez, donc qui est clairement abordé, mais pas seulement à travers le personnage de Papa, il est abordé aussi à travers la possibilité ou non d'un amour mixte, et surtout à travers le refus extrêmement brutal, violent, presque caricatural de la famille blanche de maman, qui est raciste sans vergogne. Je veux dire. Bon, il y a tout ça. Et puis aussi le personnage politiquement correct, en tout cas qui souhaiterait l'être, qui est donc représenté à travers le nouveau compagnon de maman, celui qui a remplacé papa, qui est donc un professeur de lettres au lycée de Courbevoie, et qui voilà se pose toutes les questions que la gauche ou que la France ou que je ne sais qui a pu se poser quant à son rapport avec ses colonies, avec l'Afrique, avec le passé, avec le présent. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Ça pourrait presque être une allégorie. Nous ne l'avons pas du tout montée comme ça. Mais quand nous avons travaillé sur la pièce, on s'est presque dit, tiens, ça pourrait presque être une allégorie de ce que ont été ou sont même dans l'histoire de l'Europe ex-ment coloniale, je veux dire, des rapports qu'elle a entretenus avec la jeune Afrique. Et qui, maintenant qu'elle n'est plus jeune, c'est-à-dire qu'on lui a tout pris, je veux dire. Et quand on n'a plus rien à lui prendre et qu'elle souffre de la misère, de la malnutrition et du sida, on lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Hein, parce que dans la pièce, il y a quand même comment s'en débarrasser.
Oui.
Il y a ça. Et c'est un texte très curieux parce qu'il brasse tout ça d'une façon extrêmement légère. Enfin, ou quand ça n'est pas léger, c'est simplement parce que Marie est quelqu'un qui a du culot. Moi, j'ai apprécié ça la première fois que j'ai lu le texte. Je me suis dit, elle écrit quand même d'une façon très libre, quoi. Elle dit très fort et très clairement ce qu'elle a à dire. Voilà. Donc, c'est...
Elle est issue un peu de cette histoire-là aussi.
C'est une question que je n'ai jamais voulu lui poser. Je le sais.
Jeune femme métisse.
C'est une jeune femme métisse dont le papa est parti très tôt. Bon, je le sais parce que je l'ai lu dans un article de presse qui concernait, je veux dire, l'auteur de romans qu'elle est aussi par ailleurs. Mais lorsque nous sommes vus, que j'ai pas cherché à savoir au fond quelle était la part personnelle. Et je crois que ça l'intéressait pas non plus de développer cet aspect-là des choses.
Non, mais comme je
Mais elle sait de quoi elle parle.
Bien sûr, voilà. Comme je disais, cette histoire-là, c'est-à-dire aussi des rapports entre la France et l'Afrique. C'est-à-dire qu'elle pose un regard, évidemment, elle sait de quoi elle parle au sens personnel, mais elle pose un regard aussi très politique sur cette histoire. Enfin, c'est aussi, elle s'est détachée aussi de l'histoire intime pour retourner une question plus politique.
Oui.
Enfin, les deux sont mêlés.
Donc. Oui. Oui. Encore que, par exemple, bon, Marie a la peau noire, et lorsqu'on l'interroge sur son rapport à la culture africaine ou la littérature africaine, elle ne sait pas trop où lui parle. Elle est née à Pithiviers, sa maman, d'après ce que je sais, était instituteur ou professeur, enfin, elle a fait des études extrêmement brillantes en Sorbonne, enfin, etc. Bon, voilà, elle ne sait pas trop où lui parle. Et d'un autre côté, si, je veux dire, elle le sait parfaitement bien, elle a la peau noire.
Oui.
Voilà.
Et alors, pour parler du texte, de la forme maintenant du texte, je ne sais pas comment on pourrait qualifier exactement ce texte, parce que, en effet, c'est dialogué, c'est du théâtre, et en même temps, ça devient tout d'un coup comme une fable. Il y a des scènes, surtout les scènes de la fin, qui sont assez étranges. Il y a plein de choses. Je trouve que les tantes ont quelque chose de sorcière de Shakespeare. Il y a plein de choses assez curieuses dans ce texte. Non ?
Bon, moi, ce qui m'a intéressé, pourquoi est-ce qu'en cherchant parmi un tas de textes, je me suis arrêté à celui-ci ? C'est parce qu'au fond, il est très peu... conventionnellement théâtral dans son écriture et dans sa progression. Là aussi, je l'ai senti très libre. Il n'y a aucune didascalie, elle passe allègrement 20 ans après, elle met un monologue quelque part, et puis on a très vite compris avec mon collègue Dominique Muller que ça aurait très bien pu être une nouvelle, que ça aurait très bien pu être un roman. Au départ, c'était d'ailleurs une pièce radiophonique, et à aucun moment ça n'a été, je veux dire, elle n'a jamais écrit dans le but d'une représentation. Bon, maintenant, si quelqu'un veut bien s'en occuper, elle ne s'y oppose pas, la preuve. Donc il y a ça, je veux dire. Et, elle qualifie très bien ce qu'elle a fait, au fond, sans avoir l'intention ou la volonté de le faire. Elle regarde son texte et elle dit, oui, je vois bien que c'est une sorte de prose étranglée, dit-elle. C'est comme une nouvelle dont on n'aurait gardé que les dialogues. Parce que elle s'explique là-dessus, il y a un certain moment où écrire un roman entraîne une certaine pesanteur et qu'elle a voulu se dégager de cette pesanteur. Je crois que Marie ne se pose pas comme l'auteur de théâtre contemporain du XXIe siècle, pas du tout. Elle écrit et elle nous pose une question. Et la question est tout simplement la suivante, qu'est-ce que c'est que ce théâtre que je suis en train d'écrire ? Alors, bon, moi, je donne un élément de réponse, et puis un autre metteur en scène va s'en emparer, va donner encore un autre élément de réponse, etc., etc. Et ça peut très bien se faire comme ça. Mais je crois qu'il n'y a pas derrière, et c'est ça qui m'a plu, et qui distinguait ce texte des autres textes que je lisais, si vous voulez. Fût-il écrit par des jeunes gens, je sens bien quand même la volonté d'inscrire ça dans l'histoire du théâtre. Je veux dire, Marie, elle écrit pas ça, elle inscrit pas ça dans l'histoire du théâtre, c'est de la littérature, je veux dire, c'est de l'écrit. Mmh. Et c'est ce qui m'a plu, parce que ça donne un espace de liberté aussi, enfin, au metteur en scène. Il faut l'inventer, le spectacle, si vous voulez. Comme elle vous donne aucune indication, il faut l'inventer. Et bon, ceci dit, beaucoup de choses sont déduites du texte. Hein.
Comment vous êtes tombé sur ce texte ?
Une jeune comédienne de mes amis, décédée depuis, qui s'appelle Hélène Lapiovert, avait interprété Maman lors de la diffusion radiophonique de cette pièce. Ouais. Et c'est Hélène qui m'a dit, parce que je posais la question à tout mon entourage, moi j'ai besoin d'un texte pour le français, je ne sais pas quoi monter, vous n'avez pas un truc intéressant à lire. Et Hélène m'a dit, tu devrais lire ça. Et Hélène, voilà, j'ai confiance et je l'ai lu. Et elle est d'ailleurs à l'origine de ce projet, enfin je veux dire, elle a suivi de très près. Elle m'a même indiqué très très tôt Bakary Sangaré, comme étant, d'après elle, l'acteur qu'il fallait engager pour jouer papa. Et moi, je ne comprenais pas.
Est-ce que c'est Bakary Sangaré qui l'a lu également
Pas du tout.
Non,
pas du tout. Ouais. Pas du tout. Mais elle avait vu Bakary, c'était peu de temps avant qu'Hélène ne parte. Elle me téléphonait parce que je voulais en parler avec elle. Elle me disait, ah, c'est Bakary, c'est Bakary. Et moi, je ne comprenais pas. Je disais, mais non, Bakary est trop jeune. Bakary n'est pas un papa. Bakary est un amant. Il faut un acteur plus âgé. Il faut un papa. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai auditionné énormément enfin, d'acteurs noirs, soit d'Afrique, soit des colonies, soit métis. Et j'en revenais toujours à Bakary en me disant toujours, ouais, mais il est trop jeune, etc. Mmh. Et puis non, puis finalement, c'était lui. C'était lui parce qu'il avait cette chose que vous avez vue, que vous avez ressentie, et qui fait que, comme j'ai dit tout à l'heure, sans cette chose-là, ça peut pas marcher. Mais cette chose, c'est aussi la capacité pour l'acteur de bien vouloir en rire. Et c'est pas évident, hein, d'avoir un regard sur soi-même. Parmi, par exemple, je dis ça, puisque vous parliez de politique, parmi les différents comédiens africains que j'ai auditionnés, comme on dit, moi qui n'auditionne jamais, il y en avait qui étaient assez furieux que un texte allait être inscrit au français avec un black et il était plein de défauts. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah non, ils n'étaient pas contents, je veux dire, de cet anti-héros. Et ils n'apercevaient pas ce que, je veux dire, immédiatement pour eux, ils ne pouvaient pas, si vous voulez, humainement, ils ne pouvaient pas se rendre compte de cette plénitude d'humanité que recelait peut-être le personnage, si on voulait bien écouter ceci comme là, comme ça, enfin bref. Bref, le travail, quoi. Mais il me fallait absolument un acteur qui soit capable d'être en phase avec moi sur une certaine autodérision que je voulais que le spectacle porte. La grande remarque, au fond, de Marie sur le travail que j'ai fait, c'est qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de choses qui prêtent à rire ou à sourire. D'humour, si vous voulez. Mais moi, j'aurais pas pu. J'aurais pas pu aborder un tel sujet si ça n'avait pas été comme ça.
Et ça paraît quand même très curieux quand on dit tout d'un coup que pour la première fois, un acteur noir entre à la Comédie française. C'est d'une violence inouïe quand tout d'un coup on réalise. On est en 2003, on vit à la Comédie française, on assiste à une pièce et tout d'un coup on réalise ça.
Alors,
très violent.
Oui, ça aurait été plus violent si on avait pu dire, et fort heureusement ça n'a pas été le cas, que pour la première fois un acteur noir montait sur des planches en France. Non, mais je m'explique là-dessus. Je m'explique. Peter Brook, ça fait des années et des années qu'il travaille avec des acteurs africains, mais aussi, enfin, je veux dire, c'est un peu l'UNESCO, Peter. Enfin, je veux dire, il rassemble de toutes les ethnies, de toutes les origines, de tous les continents, il fait ça. Donc, on avait vu qu'il y en avait également. Bon, la comédie française, c'est tout simplement un oubli dû, malheureux, je dirais, dû à la, au fait que peut-être pendant des années, c'était pas très ouvert. Je veux dire, là, avec Marcel Bozonnet, on voit bien qu'il y a une volonté d'ouverture et d'ouverture tout azimut, y compris sur ce terrain-là. Moi, je suis ravi parce que, mais ça a été un hasard. Si j'avais choisi de monter, par exemple, je sais pas quoi, l'éveil du printemps de Védekind, j'aurais peut-être pas dit on va engager un acteur noir. Je veux dire, il était clair, en tout cas, qu'à partir du moment où moi je mettais en scène, ça ne pouvait pas être un acteur blanc grimé. Je veux dire, comme on a pu jouer Othello ou des choses comme ça. C'était nécessairement cette culture-là et cette sensibilité-là dont on avait besoin. Ça, c'était clair. Ou comme ça a été le cas d'ailleurs pour un texte de Sangors qui avait fait scandale, je crois, à la Comédie Française il y a quelques années. Non, mais même les nègres de Genet de la saison dernière ont été montés au théâtre Gérard Philippe avec que des acteurs noirs. Donc bon, ils ne travaillent pas assez, bien sûr qu'ils ne travaillent pas assez. Ce qui manque, c'est l'audace que les Anglais ont depuis des années de mettre délibérément des acteurs noirs ou jaunes ou verts ou rouges dans des rôles qui ne sont pas forcément écrits pour ça. Bon, faire jouer Othello à un noir, ma foi, c'est aussi très induit par le texte.
Il faut lui
faire... Oui, c'est bien le moins, mais ça n'a pas été le cas, comme vous savez. Mais lui faire jouer Hamlet, c'est beaucoup mieux. Et moi, par exemple, je voudrais bien retravailler au français avec Bakary, mais je voudrais absolument que Bakary joue le misanthrope. Je pense que ça aurait un sens.
C'est la première fois que vous avez monté une pièce au français.
Oui. Oui, oui.
Et qu'est-ce que ça signifie pour vous ?
Ça signifie rien au niveau de moi que j'ai commencé à faire.
Vous avez une longue carrière.
Oui, mais
vous avez énormément de textes.
Oui.
Coup,
mais c'est bon, on me l'a proposé. Bon, je ne l'ai pas souhaité avant parce que ça tient à la personne de Marcel et ça tient aussi à ce que j'ai cru comprendre qu'il voulait faire. Et je veux bien l'aider parce que je crois que c'est intéressant. Enfin, je veux bien l'aider si tant est que ma présence l'aide. Bon, en l'occurrence, oui, avec Papa doit manger. Très bien, j'en suis ravi. Mais autrement, non, c'est un endroit, comme on sait, qui pratique l'alternance, donc il y a des contraintes. Pour un metteur en scène, il y a énormément de contraintes. La troupe, d'abord, il faut choisir parmi la troupe. Ensuite, une fois que vous avez choisi parmi la troupe, la liberté des acteurs et des actrices sont fonction de ce qu'ils ont à faire ou pas d'ailleurs dans l'année. Et puis la grande contrainte, c'est au niveau de l'alternance des décors. Ça vous oblige à une scénographie très 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 élémentaire. Et là, avec Nicky Rietti, il a fallu ça a été dur, si vous voulez, d'imposer notre théâtre d'une certaine façon.
Système de boîte,
que maintenant on utilise. Oui, depuis trois spectacles. Oui, depuis trois spectacles, oui, qui va d'ailleurs bientôt finir, mais je vais encore en faire une avant de terminer.
Et alors, c'est quoi ce système de. Enfin, là, par exemple, dans Papa doit manger, est-ce que vous pouvez raconter un petit peu comment s'applique votre système de boîte?
C'est très difficile parce que la contrainte est que tous les décors ici doivent être installés et désinstallés dans le minimum de temps, de façon à pouvoir être stockés en petits bouts, et un autre est réinstallé pour le prochain spectacle, et puis ensuite, il n'arrive pas. C'est une usine à mettre en place et des décors différents, constamment. Et c'est pourquoi que ça... C'est une des raisons, pardon, pour laquelle ça peut induire une certaine esthétique, je veux dire, le décor unique, beaucoup de pendrillons, enfin, des choses très légères. Et avec Nicky, nous, on aime beaucoup des décors généreux. C'est pas seulement une façon de se faire plaisir, comme on le dit trop souvent, c'est une façon de faire plaisir. Moi, je vis ça comme des cadeaux. Je veux dire, des cadeaux à l'auteur, des cadeaux aux acteurs, des cadeaux aux spectateurs. Enfin, j'aime bien quand il y a une multiplicité de décors, parce que j'aime bien quand il y a un rythme du spectacle qui fait que ça va vite. Et là aussi, ça va vite. Je veux dire, on suit le personnage dans ses errements, dans ses allées, dans ses retours. À chaque fois, nous essayons évidemment que ce soit cohérent. Et ça l'est. Bon, là, c'est la même chose. C'est-à-dire, on passe assez rapidement d'un couloir d'immeuble d'HLM à un F2, puis ensuite, on retourne dans un taudis à Courbevoie pour revenir de nouveau dans un couloir et puis se retrouver ensuite à 90 km de Paris, à la campagne, toujours dans ce genre d'architecture. Bon, ça doit aller très vite, ça doit avoir son rythme, simplement les techniques de construction ne sont pas les mêmes. Voilà, c'est ça la différence. Il faut inventer des astuces et des solutions pour ne pas trop en rabattre. Autrement, j'ai été bien parce qu'on s'est très rapidement constitué en groupe homogène dès le début des répétitions avec les comédiennes et les comédiens que j'ai sur le spectacle. Donc au fond, je me suis senti comme d'habitude. Moi, j'ai un esprit comme ça, très chef de bande, enfin, très, très, ou pater familias, je ne sais plus comment dire aujourd'hui. Et j'aime bien être assuré de la cohésion, du fait qu'on va tous dans le même sens. Quand je fais du théâtre, pour moi, c'est essentiellement ça. Enfin. Et là, ça s'est fait. Ça s'est fait malgré les préjugés que moi, je pouvais avoir.
Sur le fait de travailler avec la troupe de la Comédie-Française,
oui, c'est ça ? Oui, j'avais des préjugés qui consistent à dire « Oui, mais qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui vient travailler 2 heures avec moi le matin et qui a probablement déjà en tête le spectacle qui va travailler avec un collègue, j'aurais pu dire concurrent, l'après-midi pour jouer un troisième le soir. » Enfin bref, je me racontais ça, si vous voulez, les raisons pour lesquelles je ne veux pas aller travailler en Allemagne. Parce qu'en Allemagne, le théâtre fonctionne essentiellement comme ça.
Il y a une résistance là. Enfin, vous aviez peur d'une certaine résistance des comédiens, c'est ça ?
Oui, enfin pas d'une résistance, si vous voulez. J'avais peur que le planning, l'emploi du temps objectif qui est le leur, les rende un peu plus distants
absent
un petit peu, mais c'était un préjugé, si vous voulez. Simplement parce que moi, je suis très jaloux, je suis quelqu'un de très exclusif. Bon, moi, je dis, bon, tu es dans mon spectacle, il n'y a plus que ça dans ta vie pendant les 3 mois, ça, tu fais comme moi. Voilà. Et là, je savais bien que ce n'était pas le cas. En réalité, ça a été le cas. C'est une autre façon de procéder.
Vous montez assez peu de textes contemporains ?
Je n'en ai jamais monté.
Non, vous n'avez jamais monté.
Voilà la quatrième nouveauté. J'ai mis en pièce Beckett.
Vous voulez la Comédie Française pour monter.
Oui, tout ça m'amuse. J'ai mis en pièce Beckett avec son accord à Strasbourg il y a des années de ça, mais c'est tout. Autrement, je n'ai jamais monté d'auteur contemporain. Non. Ça m'a donné envie. Hein. Oui, ça m'a donné envie. Non, mais c'est parce que je suis pas un grand lecteur de théâtre. J'ai du mal à lire le théâtre, si vous voulez. J'ai toujours eu du mal. Dès qu'il y a 2 pages qui me déplaisent, j'arrête. Alors que bon, évidemment, je ne suis pas un bon lecteur. Voilà.
Et vous avez une idée là d'un auteur vivant ?
Ben, je vous ai déjà. Je sais pas. J'ai essayé de faire comprendre ce que j'aimais dans le théâtre contemporain, c'est qu'il ne cherche pas trop à être le théâtre contemporain. Voilà, c'est tout. Donc Marie écrira d'autres pièces. Je suis pas obligé de devenir non plus le spécialiste du parathéâtre de Marine Diaye. Je sais pas. J'ai envoyé une lettre à Jean Echenoz. Et puis il y a des gens qui m'envoient des textes aussi. Bon, des fois je les lis, des fois je les lis pas jusqu'au bout. Mais oui, peut-être. Peut-être aussi par saturation de l'univers, de toujours à en revenir inlassablement au monde théâtral qui est le mien, c'est-à-dire les auteurs de langue germanique, de la Mittel-Europa, des années, ça peut monter un peu plus haut jusqu'à Büchner, si vous voulez, ou Kleist, mais ensuite ça reste quand même très les années 20, les années 30, ou Thomas Bernhardt. Voilà, mais moi j'attends qu'on me surprenne aussi.
On en reste là.
Ouais.
Merci.